France Culture.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sens Politique, l'émission qui prend le temps de connaître une invitée pour décrypter avec elle son parcours, son engagement et sa personnalité au rythme de l'actualité. Notre invitée est une libérale, diplômée d'un BTS et d'une école de commerce, début de carrière dans l'immobilier, chef d'entreprise. Génération Chirac, puis Sarkozy, elle prend sa carte à l'UMP en 2002, à 27 ans. Représentante de la société civile avant l'heure, elle manque de peu la mairie du Mans en 2014. Depuis, ascension fulgurante jusqu'à la présidence de région, un poste qui ne lui était pas promis. Elle n'est pas bavarde sur les plateaux, mais dans son conseil régional, elle coupe à la tronçonneuse. Surnommée la Ravière Milaille de l'Ouest ou la Thatcher des Pays de la Loire, elle nous dira si elle assume ses coupes budgétaires dans sa région et pourquoi elle y voit des caricatures. Ses phrases fétiches, on est shooté à la dépense publique ou encore les taxes, ça suffit. En 2022, elle quitte son parti des Républicains pour rejoindre Horizon, propulsée vice-présidente du parti d'Édouard Philippe en 2024. La Sartoise qui a succédé à Bruno Retailleau à la tête de la région Pays de la Loire pourra-t-elle faire le lien entre les deux hommes pour 2027? Elle nous répondra. Bonjour Christelle Morancet.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation et merci à vous de nous écouter. Comme chaque samedi, nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. Cette semaine, mardi 10 juin, une surveillante a été agressée au couteau par un élève du collège Françoise Dolto en Haute-Marne. Elle est morte des suites de ses blessures. Vous, en tant que présidente de région, comment expliquez-vous ce genre d'événement ?
Écoutez, moi j'ai vécu un drame similaire il y a quelques semaines sur Nantes. C'est une jeune fille qui est décédée, 57 coups de couteau par un jeune dans un établissement scolaire où il n'y a jamais de problème. Je pense que cette situation, bien évidemment, elle est dramatique. Moi, au moment où je vous parle, je pense bien évidemment aux familles, à l'ensemble aussi des chefs d'établissement qui subissent aussi ces situations. Il faut prendre du recul. Moi, ce qui m'interpelle depuis quelques jours et même quelques semaines suite au drame de Nantes, c'est la surenchère. Ce drame, avant tout, pensons aux familles, pensons à l'ensemble des communautés aussi éducatives et tombons pas dans cette surenchère. Il faut prendre du recul.
Quand vous parlez de surenchère, vous parlez sans doute de toutes ces mesures qu'on entend, qu'on déploie d'un coup parce qu'il y a eu cet événement sur les portiques, etc., qui parfois ne portent pas du tout leurs fruits, la preuve.
Oui, et puis sur chaque fait divers, il y a l'ensemble de la classe politique qui font des propositions, des yaka-faucons. Non, la situation, elle est extrêmement grave, extrêmement difficile. Il faut prendre du recul.
Mais vous qui êtes élu local, vous n'êtes pas forcément responsable des collèges, bien sûr, ce sont les départements, mais des lycées, vous avez une appréhension du terrain qui est quand même particulière, Christelle Morancet. Est-ce que vous l'avez vu augmenter, cette violence chez les mineurs? Est-ce que vous l'expliquez par certains facteurs?
Il y a une augmentation de la violence, mais en général. Enfin, quand vous voyez le match du PSG il y a quelques semaines, c'est l'illustration aussi concrète, et notamment avec des mineurs. Je pense que la période Covid a également été extrêmement difficile pour les jeunes. Il y a un vrai sujet aussi de santé mentale. Maintenant, voilà, soyons vigilants, prenons aussi le problème à bras le corps. Il faut savoir aussi se poser et avoir une vraie réflexion sur ce sujet-là. Mais tombons pas dans cette surenchère et il y a qu'à faucon.
Est-ce que le gouvernement porte une responsabilité dans ce drame ?
Écoutez, il ne faut pas laisser croire aussi que l'État peut tout partout. C'est bien évidemment dramatique. Maintenant, il y a un travail à faire, bien évidemment, au niveau de l'État, l'ensemble des collectivités. Hein, vous l'avez dit, nous, on a la responsabilité des lycées. Et puis, il y a aussi une responsabilité, là, je trouve qu'on n'entend pas beaucoup parler, celle des parents. Moi, je suis aussi mère de famille. J'ai deux garçons qui ont 16 et 18 ans. Et quand on est parent, on a aussi des obligations. Et je pense que ça aussi, c'est un vrai sujet. Il faut associer tout le monde.
Êtes-vous favorable, en tant que mère de famille, mais aussi en tant que femme politique, Christelle Morancet, à l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, comme le président de la République ou Gabriel Attal?
Écoutez, sur cette mesure, je suis très réservée. Je pense qu'on ne prend pas la bonne direction. Vous savez, le moyen de communication aujourd'hui des jeunes, ce sont les réseaux sociaux. Alors est-ce que c'est bien, c'est pas bien, etc. Enfin, dans chaque génération, voilà, il y a des moyens de communication. Et là aujourd'hui, on fait une proposition en disant on va couper les réseaux sociaux. Je pense qu'on peut pas s'y prendre plus mal si on veut se couper aussi de la jeunesse. Maintenant, d'avoir une vraie réflexion d'éducation, de formation sur les réseaux sociaux, je dis oui. Mais aujourd'hui, l'interdiction, et comment on s'y prend ?
Et comment on s'y prend pour former sur les réseaux sociaux ?
Mais il y a un rôle déjà des parents, de restriction au niveau des parents. Je vous disais, je pense que le rôle des parents, il est crucial. On peut pas laisser, il y a des jeunes qui sont laissés totalement à l'abandon, ils passent des heures et des heures sur les réseaux sociaux. Ça, c'est avant tout aussi de la responsabilité des parents. Et puis après, dans le système éducatif, vous voyez, nous, dans les lycées, moi, j'ai mis en place depuis 4 ans la dotation d'un ordinateur portable pour tous les jeunes qui rentrent en seconde. Et associé à ça, bien évidemment, on a tout un parcours d'éducation, notamment vis-à-vis des réseaux sociaux, du harcèlement, etc.
Et qui s'occupe de ça dans vos lycées ?
Eh bien, on fait appel à des organismes, justement, qui sont spécialisés dans ce domaine. Donc,
que vous payez ?
Bien évidemment. Enfin, c'est dans les actions éducatives qui sont pilotées par la région.
Celles-là, vous ne les avez pas supprimées ?
Non, celle-ci, on est... voilà, c'est l'éducation, pour moi, c'est une priorité pour mon mandat.
Si vous voulez pas que je vous explique les raisons de mes choix, je trouve ça vraiment dommage. Parce que vous voyez là, vous voyez où on est là, le bâtiment où on est. On a mis 15 millions d'euros dans ce bâtiment, c'est pour vous. Vous savez pourquoi les choix que j'ai faits il y a quelques semaines, c'est justement pour nous permettre de continuer d'investir dans nos lycées. Est-ce que vous avez eu un ordinateur portable à la rentrée ?
Ouais, merci.
Et bien justement, c'est pour permettre à des jeunes, 73% des jeunes dans la région des Pays de la Loire n'étaient pas dotés d'un ordinateur. C'est pour permettre de continuer ce dispositif. Alors il y a deux choix. Non mais qu'est-ce qu'on fait dans une famille quand on a un petit peu moins de revenus qui rentrent ? Eh bien on fait attention, c'est juste du bon sens. Bon.
Un extrait de votre discours au lycée Bellevue du Mans le 14 janvier 2025 lors de la cérémonie des vœux aux agents de la région diffusée sur la chaîne YouTube de Nilo 490, l'un des lycéens présents dans la salle. Alors vous faites sacrément chahuter ce jour-là, Christelle Morancet. On va y venir, c'est en raison des baisses drastiques de subventions dans votre région. Mais juste un mot sur la forme, vous êtes interrompu, vilipendé. On n'est pas dans une manifestation, on est dans l'enceinte du lycée, vous êtes à la tribune. Moi, tout de suite, je me suis dit, il n'y a pas un problème d'autorité aussi par rapport à ce qu'on évoquait juste à l'instant ?
Là, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans ce lycée sur le Mans, le lycée Bellevue, et je venais, comme chaque mois de janvier, présenter mes vœux aux agents dans les lycées. Ces jeunes ont en effet mobilisé l'enceinte où avaient lieu ces vœux. Et là, il y a une vraie responsabilité parce que on peut pas intervenir comme ça. Et ça a été un moment, je dois vous dire, assez difficile. Vous savez, on y reviendra certainement sur le budget, mais ça a été les jeunes. Moi, vous savez, je vais à leur rencontre tout au long de l'année. Sur les visites de rentrée, etc. Et j'ai mis en place au sein du conseil régional la promotion. C'est 100 jeunes issus de l'apprentissage, voie professionnelle, technologique générale ou l'enseignement supérieur. Et c'est une instance où je veux avoir un vrai dialogue avec eux et puis surtout de les interpeller et les faire travailler sur les dispositifs de la région. Et le débat, quelles que soient les tendances politiques, et le débat, il est très apaisé. J'étais avec eux il y a encore 3 semaines. C'est très constructif. Mais là, c'est de la manipulation. Je vous dis, cette séquence-là, c'était une manipulation politique de l'extrême gauche. Hein, je vais les citer.
Ils ont l'air quand même tous.
Ah non. Mais je vais vous dire.
Sur la vidéo, en tout cas.
J'ai deux fils qui ont été alertés par mail en disant la présidente de région vient, et c'était signé et les filles. Et donc avec tous les éléments de langage. Et donc là, c'est de la manipulation vis-à-vis de la jeunesse. Et ça, ça me dérange.
En tout cas, il n'y a pas que LFI hein, qui critique ce que vous avez fait en décembre 2024, qui vous a valu cette une de Libération que vous avez d'ailleurs, je crois, encadré, signe que vous assumez totalement.
Ah, c'est un cadeau. Non, c'est un cadeau de mon cabinet. D'accord. Pour mes 50 ans au mois de janvier.
La région Pays de la Loire présente Massacre à la création, avec vous caricaturé en Massacre à la tronçonneuse, le fameux film. Mais c'est vrai que vous y allez quand même assez fort, hein. Vous allez même beaucoup plus loin que ce que vous demande à l'époque Michel Barnier pour réduire, le budget de votre région, vous supprimez ligne à ligne toutes les subventions de la région d'un coup.
Oui, et je l'assume parce que réduire la dette, nous le devons à nos enfants. Enfin, c'est une responsabilité collective. Ça fait des années, ça fait 50 ans qu'à la tête de l'État, on ne vote pas un budget à l'équilibre. Et aujourd'hui, oui, ces choix budgétaires, je les fais comme n'importe quelle famille, comme n'importe quel chef d'entreprise. Quand les recettes sont pas au rendez-vous, ben on fait des efforts. Et donc, ça voudrait dire que nous, collectivités ou l'État, on a aujourd'hui 100, demain on a 50 et on continue à dépenser 100. Non, moi, je m'y refuse totalement. Et donc, j'assume totalement ces choix politiques. Et les choix qui ont été les miens, c'est de baisser le fonctionnement pour maintenir un haut niveau d'investissement, parce que ça, c'est préparer l'avenir.
Mais est-ce que vous aviez anticipé les conséquences pour les associations, pour les clubs de sport,
pour
le milieu culturel, qui d'un coup se voient supprimer parfois 100 000 euros de subvention à un mois d'un événement?
Écoutez, enfin, les choix qui ont été les miens, on ne peut pas me reprocher d'avoir fait du clientélisme ou d'accompagner en fonction des étiquettes politiques telle ou telle association. J'ai supprimé l'ensemble des subventions, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire, quelquefois j'entends, elle a fait moins 73% dans la culture. Non, c'est pas moins 73%, puisque quand vous avez 100...
C'est 100% des aides à la création,
oui,
par exemple.
Oui, c'est toutes les subventions, c'est le modèle des subventions que j'ai totalement supprimé. Et c'est pas uniquement la culture, comme j'ai pu l'entendre.
Mais qui
parce
vous
que
a...
la culture et le sport, ça représente que 10%. C'est aussi dans l'économie, c'est aussi dans l'environnement, c'est l'ensemble des subventions qui ont été supprimées, encore une fois, pour maintenir un haut niveau d'investissement.
Mais qui vous a donné mandat pour tailler ainsi dans les dépenses de votre région, Christelle Morand? C'est parce qu'en 2021, vous n'aviez pas du tout ce discours-là pendant la campagne. Vous déclariez « la culture, le sport, la solidarité sont essentiels à nos vies. Nous soutenons nos artistes, sportifs, réalisateurs. » Et puis ensuite, vous coupez les subventions, et ça vous l'a beaucoup reproché, au Festival du film d'Angers. Christophe Béchu, qui est pourtant dans votre parti, le maire, l'a beaucoup critiqué, cette décision.
Qui m'a donné mandat? Mais encore une fois, la situation de 2021 et les mêmes aujourd'hui qui me critiquent ou à chaque début de spectacle qui disent tout le mal qu'ils pensent de la région des Pays de la Loire et de sa présidente, je les ai pas entendus post-Covid pour remercier la région sur l'accompagnement que la région a pu faire justement dans cette situation qui était délicate de la période Covid, l'accompagnement qu'on a pu avoir. Ou pendant des années où on les accompagnait, j'ai jamais eu de remerciements. Sauf qu'aujourd'hui, la situation, nous n'avons plus les moyens d'accompagner ces structures et c'est pas une compétence de la région. Donc le choix que j'ai fait, c'est l'investissement et surtout de pouvoir assumer les compétences de la région. Et donc, en responsabilité, aujourd'hui, je suis présidente de cette région, je me dois de gérer le budget de la région mieux que si c'était le mien, parce que ce n'est pas mon argent. Et donc, encore une fois, c'est par responsabilité, et c'est pas non plus un effet de zèle, comme de dire je fais plus que ce que le gouvernement... Non, il y a deux niveaux.
Mais et c'est vrai que vous avez fait plus.
Non, permettez-moi d'insister là-dessus. Les choix budgétaires que j'ai initiés, c'était même avant les annonces du gouvernement Barnier. Ce qui se passe, c'est que le budget de la région, et permettez-moi de passer un petit peu de temps pour que vos auditeurs comprennent bien, le budget de la région est préparé toujours à la période de l'été. En septembre, mes équipes administratives me donnent les projections et les grandes tendances. Et en septembre dernier, les recettes de la région, vous savez, moi je lève pas d'impôts, j'ai très peu de marge de manœuvre, les recettes de la région, c'est lié à la TVA. Il ne vous a pas échappé que le dynamisme économique, le contexte est extrêmement difficile et donc la dynamique de la TVA n'est pas bonne. Donc forcément, c'est des recettes en moins pour la région. Et c'était moins 40 millions d'euros. Ensuite, je leur ai dit, écoutez, les tendances 2025 ne vont pas aller en s'améliorant. Donc j'ai dit à mes équipes, prévoyez pour l'année 2025 40 millions d'euros plus 20 millions d'euros, donc 60 millions d'euros. À cela s'ajoutent les annonces de Michel Barnier, quand il arrive à Matignon et qu'il évoque la dette, qui n'est pas arrivée avec Michel Barnier, et malheureusement cette dette, elle n'est pas non plus repartie avec Michel Barnier, et qui annonce donc des efforts pour les collectivités, et pour la région des Pays de la Loire, c'était 40 millions d'euros. Donc au total, c'est pas un effet de zèle, c'est l'ensemble, c'est 100 millions d'euros d'économies que j'ai fait, parce que c'était 100 millions de recettes en moins. Et donc forcément, il faut faire des efforts.
C'est très clair, Christelle Morancet, présidente de la région Pays de la Loire. Mais une question tout de même, puisque maintenant on a un petit peu de recul, nous sommes au mois de juin, c'était la une de Libé dont je parlais, votre budget, c'était en décembre dernier que vous l'adoptez. Est-ce que vous avez déjà quelques regrets ou quelques remontées de terrain où vous vous dites là, peut-être qu'on n'aurait pas dû?
Très sincèrement, ça serait, je connais, vous savez, rien ne m'a été épargné pendant cette période. Ça a été extrêmement difficile. Deux unités de CRS, quand même, le jour du vote à la session. Des agressions vis-à-vis de ma majorité, de l'ensemble des conseillers régionaux. Ça serait à refaire. Je refais exactement la même chose. Parce que c'est une responsabilité que nous devons avoir. Ça suffit de mettre la poussière sous le tapis et de faire comme si de rien n'était. Donc, ça serait à refaire. Je refais exactement la même chose, encore une fois, pour préserver aussi les enjeux de la région, tels que l'investissement dans les lycées, les transports ou l'accompagnement du monde économique.
Donc à cette question de Vincent qui nous écrit depuis le Val d'Oise, s'il était démontré que vos coupes drastiques n'ont qu'un effet négatif sur votre région, reviendrez-vous sur les baisses de budget effectuées? Vous répondez non.
Je réponds non, et aujourd'hui, il n'y a pas de structure qui peut dire que c'est de la faute de la région. Alors, il y en a plein qui le disent, hein. Mais par exemple, quand on intervient auprès de festivals de musique, et que l'intervention de la région représente 3% du budget global, et que le festival n'a pas lieu, soi-disant à cause de la région, je veux bien endosser beaucoup de responsabilités, mais ce n'est pas de la faute de la région. Et qu'à un moment, il faut aussi repenser à son modèle économique.
Peut-on appliquer votre façon de faire en matière de budget dans les Pays de la Loire, Christelle Morancet, au niveau du pays? Puisque vous le savez, le gouvernement cherche des milliards.
Oui, oui, et avant d'augmenter les impôts, il faut aller chercher des économies et à tout niveau. Et je pense que ce qui va être essentiel dans les semaines et dans les mois à venir, c'est que chacun reste dans ses compétences. Depuis quelques années, que ce soit l'État, les régions, les départements ou le bloc communal, tout le monde intervient sur tout. Si au moins il y avait de l'efficacité, mais c'est pas le cas. On le voit bien, notre pays aujourd'hui, j'ai envie de dire, est en déclin total. Est-ce que l'éducation va bien? On en parlait il y a un instant. Non. Est-ce que l'hôpital va bien et la santé? Non. Est-ce que la sécurité va bien? Non. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il faut repenser le modèle. Il faut surtout aller chercher des économies, parce qu'il y a des économies à faire partout. Et puis, ce qui est essentiel, c'est que chacun reste dans son niveau de compétence.
Alors justement, est-ce que pour vous, dans les compétences de l'État, il y a les aides aux entreprises?
Là, il y a une vraie question, parce qu'aujourd'hui, les aides aux entreprises, on va dire la compétence économique, l'État intervient, les régions interviennent, et puis les communautés de communes également, avec l'autorisation de la région, interviennent. Je pense qu'il faut aussi simplifier tout ça.
Simplifier ou supprimer?
Mais aujourd'hui, on a besoin, vous savez, on est dans un monde de transformation, mutation, révolution, il y a des innovations. Je viens de passer deux jours au salon Vivatech à Paris, et il faut aujourd'hui qu'on pousse un maximum notre économie dans ces transformations et dans ces mutations. Donc oui, aujourd'hui, tant qu'on aura des impôts de production aussi forts, il faut qu'on accompagne nos entreprises. Si dans les réflexions, c'est de dire on supprime tous les impôts de production qui pèsent sur la compétitivité de nos entreprises, à ce moment-là, il n'y a plus d'aide économique. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la réalité des choses. Et derrière nos entreprises, c'est aussi l'attractivité des territoires et c'est aussi l'emploi. Et ce qui doit être essentiel dans le contexte actuel, parce qu'on vit quand même depuis un peu plus d'un an, depuis la dissolution, depuis la censure, tout est à l'arrêt en France, alors qu'on est dans un monde de transformation, notamment sur le numérique, notamment sur l'intelligence artificielle, notamment sur la robotisation et modernisation des chaînes de production. L'innovation, ça doit être essentiel. Moi, je me bats à la région pour que nos entreprises puissent innover et qu'on ne regarde pas les balles passées entre les États-Unis et la Chine.
Votre grand argument, Christelle Morancet, quand on vous reproche, et on vous le reproche, vous venez de le rappeler énormément, d'avoir supprimé toutes ces subventions, c'est qu'il y a d'autres moyens de financement que l'État, et notamment le mécénat. Est-ce que vous assumez, vous, par exemple, de demander à Pierre-Édouard Sterrin de financer ce que faisaient autrefois les collectivités ou l'État encore aujourd'hui, c'est-à-dire la culture, les associations, etc. Est-ce que ça, c'est pas plutôt au rôle du politique qui, lui, est élu?
Mais il y a toute une polémique qui a eu lieu notamment à Nantes avec le Bien Commun, qui est donc une organisation, c'est des fonds privés.
C'est une nuit qui s'appelle la Nuit du Bien Commun, créée par ce milliardaire dont je parlais à l'instant, Pierre-Edouard Sterrin, l'inventeur de Smartbox, sympathisant de l'extrême droite, en mai 2025. Et vous êtes la seule collectivité partenaire de l'événement.
On était partenaire. Ça, c'était avant le vote du budget de 2025. Mais c'est quoi ce monde aujourd'hui qui critique aujourd'hui du financement privé pour accompagner les associations? Et dans ces associations, il y a des associations qui sont toutes tendances politiques. À ma connaissance, lors de la Nuit du Bien Commun à Nantes, il y a quelques jours, les associations qui sollicitaient des financements, il y avait des associations également de gauche. Donc de là à dire que Monsieur Sterrin est à l'origine et uniquement avec un enjeu d'extrême droite, non, il faut arrêter ces polémiques. Et moi, je suis favorable justement à avoir plus de partenariats, plus de liens entre le public et le privé. C'est ce que je fais sur des événements à la région, tels que le Big Bang de l'emploi, où il y a un accompagnement de la région, et j'ai également des investissements privés. J'ai le Région Pays de la Loire Tour, qui est une course cycliste qui sillonne l'ensemble de la région pour mettre en avant notre beau territoire, financement public et financement privé. Et je pense que c'est ça aussi de revoir nos modèles économiques. Et quand vous avez des partenaires privés qui sont là pour accompagner et financer des associations, eh bien moi je dis bravo et je félicite plutôt que de critiquer comme on peut l'entendre un petit peu partout.
Mais ce qui interroge, je pense, et on a eu pas mal de questions sur le sujet sur les réseaux sociaux, Christelle Morin, ça c'est que vous, en 2022, vous quittez Les Républicains parce qu'il n'y a pas de barrage clair contre Le Pen, Marine Le Pen, de ce qu'on a pu lire de vous. Donc, à la fois soutenir, apporter son soutien, en tout cas comme collectivité, à ce milliardaire qui, lui, fait explicitement la promotion de Jordan Bardella ou Marine Le Pen, est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal?
Mais la Nuit du Bien Commun, Monsieur Sterrin n'est pas dans l'organisation. Il n'est plus dans l'organisation. Donc, mon combat, il restera ce combat, c'est le combat des extrêmes, à droite comme à gauche, RN et LFI. Et je ne change pas de cette ligne-là. Ce que j'accompagnais sur la Nuit du Bien Commun, et j'ai pris des positions pour les défendre, c'est justement ce partenariat public-privé.
Il est cofondateur, il est exilé fiscal depuis 2012 en Belgique. Il ne se rend pas aux commissions d'enquête quand il est convoqué au Parlement. Pour vous, ça, c'est des valeurs compatibles.
Mais je ne partage pas tout avec Monsieur Sterrin, mais j'ai eu l'occasion de le rencontrer aujourd'hui.
Parle de vous comme d'une licorne de la politique française.
Oui, mais j'ai eu l'occasion, vous savez, avant de critiquer les hommes ou les femmes, faut les rencontrer. Et moi, j'ai un bon souvenir de cette rencontre. C'est un homme qui a réussi, qui a eu aussi des échecs, et ça, on n'en parle pas beaucoup en France. Et grâce à ses échecs, il a avancé. Aujourd'hui, il est milliardaire. Mais on peut être fier aussi de voir ses réussites. Et ça, c'est ce qu'on doit montrer aussi à notre jeunesse. Moi, je regarde toujours vers le haut, je regarde toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et on a cette fâcheuse habitude en France de critiquer des initiatives qui vont dans le bon sens. Après, je suis pas d'accord sur tout, mais il y a un moment, c'est juste un peu de respect aussi pour cet homme.
France Culture, Sens Politique, Astrid de Villene.
Je suis quand même un petit peu inquiet parce que elle est toute récente dans la politique. J'espère qu'elle sera de taille à supporter cette tâche, quoi. Mais c'est tout. Hein. Et là, je l'ai sourire. C'est pas suffisant.
Ça va vite, hein. Je pense qu'elle monte bien vite, elle grimpe bien vite. On verra.
Est-ce que c'est celle qui était dans l'immobilier, moi,
oui, c'est
on
ça.
Sait
ah,
c'est
ouais,
ça,
ouais,
hein.
Ouais,
c'est
ça.
Bah, elle peut faire ses preuves, hein. Moi, je suis pas contre.
On va lui souhaiter que ça marche bien, qu'elle nous défende bien.
Un reportage du 19-20 sur France 3, édition Pays de la Loire, le 8 septembre 2017. Vous dites que vous n'aimez pas être réduite au fait d'être une femme en politique, que vous voulez qu'on vous juge sur les engagements, mais parfois ça revient.
Oui, parce que elle a un joli sourire, comme je viens d'entendre dans le reportage. Je suis pas sûre qu'on dise ça d'un homme. Il y a quand même encore beaucoup de travail à faire en France à ce sujet.
Vous l'avez vécu, vous, en politique, le sexisme, Christelle Morançais?
Oui, c'est pas simple. On est jugé sur notre tenue, sur notre physique, et pas sur nos compétences. C'est difficile. Et puis peut-être aussi cette cette approche qu'on peut avoir. On a une approche complètement différente, on se pose beaucoup de questions. Moi, je me permets de dire qu'il faut que les femmes aussi, elles s'engagent. Et ce n'est pas toujours le cas. Un homme, moi, si je prends mon cas personnel, quand Bruno Retailleau, par le cumul des mandats, devait faire le choix entre le Sénat et la région des Pays de la Loire, et puis il me reçoit dans son bureau pour me dire que mon nom ressort pour prendre sa suite, n'importe quel homme aurait dit oui sans se poser de questions. Et là, j'étais surprise. Et je lui ai dit, il faut que je réfléchisse, parce que j'avais mes enfants qui ont 16 et 18 ans aujourd'hui, mais qui avaient 8 ans de moins à l'époque, mon engagement à l'époque pour Le Mans, et puis la cohésion aussi de l'ensemble de la majorité régionale. Et puis je me suis posé plein de questions pendant 3 jours. Le matin, je me levais en me disant, oui, c'est bon, j'y vais. Le soir, je me couchais, je dis, non, j'y vais pas. Et puis mon mari m'a vraiment boostée, quoi. Et parce que je me posais des questions, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que je suis capable, etc. Et un homme ne va pas se poser toutes ces questions-là. Et donc, moi, si je peux faire passer un message aux femmes qui nous écoutent, vous posez pas de questions. On est autant capable que les hommes. Moi, je crois beaucoup aussi dans cette complémentarité entre les hommes et les femmes. Mais j'ai envie de dire aux femmes, allez-y, osez, foncez, que ce soit en politique, dans les associations, dans les entreprises, prendre aussi les directions, les grandes directions générales. Et on en a trop peu de femmes aux grandes directions générales. Donc, il y a toute une place à avoir pour les femmes. Et je trouve qu'on a une approche aussi différente.
Alors en 2017, c'est le micro-trottoir qu'on vient d'entendre et vous venez de nous raconter un peu les coulisses, Christelle Morançais. Vous êtes donc élue au sein du conseil régional puisque Bruno Retailleau va au Sénat, conserve son poste de sénateur, de président du groupe LR au Sénat. Vous étiez déjà vice-présidente à la région, mais elle n'est pas du tout évidente cette élection en interne puisque au départ, avant que vous soyez élue devant le conseil régional, puisqu'il y avait deux concurrents de taille face à vous au sein du groupe pour être candidat à la présidence du conseil régional, l'ancien directeur de cabinet de François Fillon, François Pinte, et l'ancien député vice-président de la région, Paul Janteau. Et c'est finalement votre nom qui sort du chapeau face à ces deux poids lourds locaux. Au terme d'une réunion qu'on dit houleuse avec Bruno Retailleau, que s'est-il passé dans cette salle du conseil régional ?
Oui, assez houleuse, non, je dirais pas ça. C'est honnêtement, même avant l'été, moi je sortais d'une législative, où les législatives de 2017, je venais de perdre à 48 voix, donc c'était un moment assez difficile, un engagement auprès de Bruno Retailleau au sein du conseil régional depuis 2015. Je me posais quand même pas mal de questions et les équipes de Bruno m'appellent en me posant quelques questions. T'en penses quoi, si c'est un tel ou un tel? Et je dis, mais c'est pas un tel ou un tel, c'est que Bruno doit rester à la tête de la région. L'été se passe, on partage le même lieu de villégiature avec Bruno Retailleau, on se croise absolument pas pendant cette période, c'est l'Île-Dieu, c'est un lieu magique où je peux me ressourcer. Et puis j'arrive en septembre et Bruno m'annonce ce choix qui a été un choix aussi de l'ensemble de la majorité. Donc il n'y a pas eu de débat ou quoi que ce soit, mais en effet il y avait deux candidatures. Moi je n'étais absolument pas candidate. C'est un petit peu d'ailleurs tout mon parcours politique.
Eh bien on va y venir. Exactement, j'allais dire c'est exactement votre histoire politique puisque vous n'étiez pas du tout au début dans la politique, à part comme militante sympathisante à l'UMP, je le disais en introduction. Mais c'est vrai qu'on vient vous chercher aussi en 2014 au Mans dans la Sarthe où la droite locale se disloque, en tout cas ça a l'air très compliqué, et vous faites campagne de manière très tardive et vous perdez à 1500 voix près. Au point qu'une des responsables locales dit « on a senti la dynamique, plus ça passait, elle a perdu sur un fil, on a fait une campagne incroyable ». Vanessa Charbonneau et l'ULR engagée à vos côtés.
Oui, c'est une campagne extraordinaire. C'est tout le début de ma carrière politique, j'ai envie de dire. Ça a été, je pars 6 semaines avant le premier tour, un truc de dingue. Enfin, jamais je pensais un jour faire même de la politique. On m'appelle pour être tête de liste 6 semaines avant le premier tour. C'est un peu comme si vous avez une piscine, on vous pousse dans cette piscine, vous savez pas nager, vous avez pas de brassard. Avec des moments extrêmement difficiles. Moi, j'ai le souvenir du premier débat, j'avais pas de programme, j'avais pas de projet. Je me vaux totalement. Puis paf, je remonte tout de suite parce que je suis une combattante, je suis une guerrière et je lâche jamais. Et ça a été une campagne qu'on a vu monter crescendo extraordinaire. Et puis c'est les débuts en politique puisque après cette campagne qui a été extrêmement serrée, Bruno Retailleau m'envoie un petit message de félicitations. Puis à l'époque il n'était pas connu comme aujourd'hui. Je googlise c'est qui Bruno Retailleau et tout. Et puis c'était les prémices des élections régionales. Mais tout ça pour dire, moi j'ai pas de plan de carrière en politique. Et même aujourd'hui, vous voyez, je suis à la tête tête de la région depuis 8 ans. Mon nom a souvent circulé pour des postes ministériels à chaque remaniement, etc. Non, j'ai pas envie d'être ministre. Je suis très bien à la tête de cette région. J'ai vraiment une affection pour cette région. Et surtout, je suis pas là en train de calculer. J'ai fait autre chose avant de faire de la politique. Je ferai certainement autre chose après. C'est un moment donné de ma vie que je donne. Et puis, j'ai eu la chance aussi d'avoir des voies qui se sont ouvertes, que j'ai saisies. Et c'est, voilà, c'est mon parcours. J'ai envie de dire, c'est ce qui me donne aussi la force, parce que ça me donne aussi beaucoup de liberté et surtout beaucoup d'engagement. Et ça permet aussi d'avoir du courage, parce qu'il faut avoir du courage pour faire de la politique.
Et puis ensuite, il y a les législatives de 2017 où vous vous présentez, juste avant en fait, d'être élu à la région, à la tête de la région. Et là, vous perdez au second tour face au candidat En Marche à 56 voix près.
48 même.
Ah pardon, on s'est trompé de chiffre. 48 voix près. Comment on gère ce genre de
défaite ? Je vous le disais, ça c'était difficile. Ça a été vraiment difficile parce que j'ai fait vraiment une campagne comme ce qui m'anime depuis le début, je fais de la politique de terrain, de proximité. Et puis j'avais déjà prouvé et œuvré au sein de la région, notamment au niveau de l'apprentissage, de la formation, de l'emploi. Et je l'ai pris. Ça a été un échec. Mais il faut toujours se servir de ces échecs pour pouvoir rebondir. Et donc je suis remontée, j'ai envie de dire, sur mon cheval aussitôt. Et puis ça a permis de construire tout mon parcours par la suite. Donc, dans la vie politique comme dans la vie en général, vous avez des réussites, mais ça, vous avez tendance à les oublier. Et puis, les échecs, c'est ce qui vous fait aussi avancer.
Quand vous avez entendu, au même moment, peut-être un peu avant, Jean-Luc Mélenchon dire qu'il a perdu à 400 000 voix près la présidentielle, enfin le second tour, ça a dû vous faire tout drôle, non ?
Oui, oui.
Quand on perd à 48 voix près, je veux dire.
Oui, enfin, qu'importe, chacun a son parcours, chacun a ses décisions, mais encore une fois, les échecs font avancer. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important et qu'on doit avoir aussi dans la culture française et qu'on n'aime pas beaucoup mettre en avant.
Vous dites que vous ne voulez pas être ministre, vous avez refusé le poste que vous proposez à Michel Barnier.
Oui, oui, je vous le disais, mon nom a beaucoup circulé à chaque remaniement ministériel, mais on m'a proposé une seule fois, et c'est Michel Barnier, en septembre 2024, et j'ai refusé parce que ça a toujours été ma ligne. Aujourd'hui, je suis à mi-mandat, un petit peu plus de mi-mandat au sein du conseil régional. C'est un mandat extraordinaire, j'ai la chance d'être à la tête d'une région extraordinaire, la plus belle région de France, et puis encore plein de projets à porter. J'ai un engagement aussi vis-à-vis des électeurs qui m'ont porté à la tête de cette région. Et puis c'est ce qui m'anime. Vous savez, moi j'ai deux mots qui m'animent au quotidien, c'est aimer et agir. Et je pense que pour faire de la politique, il faut vraiment avoir l'amour pour les hommes et les femmes qui font le territoire, et puis l'action. Et ça, je pense que depuis notre échange tout à l'heure, vous l'aurez compris, c'est ce qui me guide aussi au quotidien.
Donc si Édouard Philippe, que vous soutenez en tant que vice-présidente de son parti, et remporte la présidentielle, devient président de la République, vous accepterez un poste ministériel au sein de son équipe ?
Il faut déjà qu'il gagne l'élection présidentielle. En tout cas, je suis à ses côtés pour faire en sorte qu'il soit justement sur ses fonctions.
Et c'est pas gagné, vous voulez dire ?
Mais chaque élection n'est jamais gagnée. Mais en tout cas, si j'ai rejoint Édouard Philippe, c'est justement pour ça. C'est un homme pour qui j'ai beaucoup d'affection, beaucoup d'amitié. Et puis un vrai homme d'État avec une vraie posture, que ce soit à l'international ou national, avec une approche aussi différente où on se retrouve beaucoup. C'est le terrain. Il fait beaucoup de terrain. Un de ses premiers déplacements, c'était dans ma région. J'aime beaucoup cette phrase, c'est petite bouche, grandes oreilles, justement pour être à l'écoute aussi. Vous savez, quand on aspire à cette fonction, je pense que c'est important de sentir la France, de les écouter, et puis du regard long, vous voyez, avec des propositions, avec un regard sur du moyen et long terme, et ça on l'a un petit peu perdu en politique, on est plutôt sur l'immédiateté.
Mais si Bruno Retailleau était lui aussi candidat en 2027, est-ce que vous ne serez pas, vous, Christelle Morançais, un peu tiraillé entre deux fidélités ?
J'ai beaucoup d'amitié pour les deux hommes, que ce soit pour Bruno ou pour Édouard. Maintenant, j'ai rejoint Horizon, j'ai rejoint Édouard justement pour 2027. Par contre, ce que je souhaite, c'est qu'en 2027, il n'y ait qu'un seul candidat. Et donc, je souhaite cette unité la plus large possible, parce que, encore une fois, l'objectif, c'est d'éviter les extrêmes. Et puis, quand on est capable de se rassembler et de s'unir, et je pense que c'est aussi une volonté des Français, on peut faire un beau et grand projet pour la France.
Mais qui entre les deux ?
Ah, mais Édouard Philippe. Enfin, je me suis engagée. Si j'ai rejoint Horizon, c'est pour Édouard Philippe.
Mais il semble pas du tout avoir envie de rallier Édouard Philippe, Bruno Retailleau.
Pour l'instant, je ne sais pas s'il est candidat. C'est à lui de le dire. Et puis encore une fois, il y a 2 ans.
Une question de Franck qui nous écrit sur Instagram, d'eux-mêmes. Vous allez voir, elles sont liées. Édouard Philippe devrait-il plus communiquer sur ses idées et son programme ?
Mais c'est ce qu'il fait. On l'entend plus sur les médias. Alors après, moi, je partage totalement, vous savez, de l'entendre matin, midi et soir et de surréagir sur les faits divers ou sur toute l'actualité. C'est pas son rôle.
C'est le rôle de Bruno Retailleau.
Mais c'est aujourd'hui, Édouard Philippe travaille pour un projet pour la France. Il fait du terrain, il va à la rencontre des Français, comme je vous le disais. Moi, je suis dans le parti depuis un an et demi et ça travaille. Chaque secrétaire national, on a remis une note sur nos thématiques fin mai. Il y a des concertations aussi avec l'ensemble des acteurs. Moi, je suis en charge de l'économie et de l'industrie. Je rencontre des personnalités au quotidien. Et ça, c'est important. Donc aujourd'hui, c'est le travail d'Edouard et on n'a pas à l'entendre sur tous les sujets. Par contre, il a des paroles fortes, comme il a pu l'avoir ces derniers jours. Et je pense que c'est important. Et puis, il a écrit un livre avec des mots forts, avec ce discours de vérité. Et je pense qu'on le doit aussi aux Français.
Et la deuxième question de Franck sur Instagram, quelle est la différence entre Horizon, LR et Renaissance ?
Eh bien, l'objectif, c'est que ces trois partis s'unissent. Vous savez, ça me fait penser un petit peu à l'époque de l'UMP. J'avais d'ailleurs rejoint l'UMP pour ça. Il y avait plusieurs sensibilités au sein de l'UMP. Une droite plus conservatrice, une droite plus sociale, une droite plus libérale, etc. Eh bien, je pense que là, on a cette représentation. Donc, l'objectif, c'est de s'entendre aussi sur un projet collectif. Et ça, moi, j'aurais souhaité qu'en 2022, DLR jusqu'à Renaissance, qui est en passant par Horizon, qu'on ait des propositions concrètes pour le pays. Et justement, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Alors, il y a une responsabilité, bien évidemment, des LR, mais également du président de la République qui n'a pas tendu la main.
C'est-à-dire pas tendu la main?
Il n'a pas tendu la main...
Avant 2022, vous voulez dire?
À l'époque de 2022, au moment des élections présidentielles. Et aujourd'hui, moi, je crois dans l'unité, je crois dans le rassemblement, encore une fois. L'intérêt général doit porter sur l'intérêt individuel.
Donc, jusqu'à Gabriel Attal, en fait, un candidat unique.
Ah mais bien sûr, ça va DLR jusqu'à Gabriel Attal, et bien évidemment tout ça pour autour d'Edouard Philippe.
Sens politique, l'archive de l'invité.
Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Je vole.
Je vole, interprété par la chanteuse Louane dans la bande originale du film La Famille Bélier, réalisé par Éric Lartigot en 2014. Et ça vous fait pleurer, Christelle Morançais?
Oui, en l'écoutant, vous voyez, j'ai encore plein d'émotions. Plein d'émotions parce que là, c'est une touche très personnelle. Je suis présidente de région, mais je suis avant tout maman. Et cette chanson, c'est en septembre 2024, mon fils aîné, Paul, je l'ai accompagné aux États-Unis puisqu'il fait ses études aux États-Unis. C'était la première année, donc il partait. Donc c'est mon fils aîné qui part et c'était difficile. Et j'ai un de mes amis qui me dit, écoute, au retour, parce que la séparation était dure, donc au retour, il me dit, tiens, écoute cette chanson-là. Il me dit, tu l'écoutes en boucle. Et j'ai pleuré pendant tout le trajet en voiture, tout le trajet en avion, parce que j'ai, voilà, mes enfants, c'est mon engagement en politique, je suis très proche d'eux, et puis c'est ce qui fait vraiment mon engagement. Et encore une fois, il y a la présidente de région et puis il y a la mère de famille que je suis. Il faut pas l'oublier parce que on a tendance, voilà, à caricaturer ou à critiquer aussi les politiques, mais derrière il y a aussi un homme ou une femme avec une famille. Et mes enfants, vous voyez, pendant toute la période du budget, c'était difficile aussi pour eux, que ce soit dans leur lycée, mais même Paul qui était à l'étranger, qui recevait des messages, etc. Et ça, faut pas l'oublier. Donc moi, j'essaye de les protéger. J'ai une relation toute particulière. J'échange beaucoup avec eux. Et puis ils m'inspirent. Ils m'inspirent notamment sur des actions, sur des choses à faire. Et voilà, c'est toute ma vie.
Pourquoi vous dites que ce sont vos enfants, votre engagement en politique ?
Parce que si je me suis engagée en politique, comme je vous l'ai dit, j'ai fait autre chose avant de faire de la politique. C'est pour changer les choses.
Pour eux, vous voulez dire, et leur génération ?
Pour eux, pour leur génération. Vous savez, quand on fait de la politique, on prépare l'avenir. Et c'est vraiment tout le sens de mon engagement. Et puis, ils me donnent vraiment la force, la détermination au quotidien. Et puis, ils sont pleins de ressources. On l'évoquait tout à l'heure. Oui, il y a des jeunes qui vont pas bien, la santé mentale, etc. Mais il y a toute une génération aussi qui a envie de s'engager, qui est déterminée. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à renouer le dialogue avec la jeunesse. Ça a été de toute manière, quelles que soient les générations, des incompréhensions ou quoi que ce soit. Une génération, moi, mes grands-parents, forcément, on n'était pas spécialement en phase où on n'était pas issus d'une même génération. Mais avec la jeunesse, je pense que faut qu'elle nous inspire, faut vraiment recréer ce sens du dialogue et puis d'avancer main dans la main. Moi, je crois beaucoup à ce côté intergénérationnel et on a une jeunesse extraordinaire.
Qu'est-ce qui est le plus dur en politique, Christelle Morançais ?
Le plus difficile, c'est les moments que vous passez pas avec vos proches. Vous voyez, moi, je suis partie de chez moi lundi dernier. Je rentre ce soir très rapidement parce que je suis prise aussi tout le week-end. Donc c'est les moments que vous passez pas avec eux. Et donc ça c'est difficile. Mais pourtant j'essaie. Et ça depuis le début de mon mandat de présidente de région, d'avoir cet équilibre entre mon engagement politique et ma vie personnelle. Et donc des moments aussi que je passe avec eux, et mes équipes le savent, totalement consacrés à eux.
Une question d'Antoine en Seine-Saint-Denis. En ce mois de Pride, comment vous positionnez-vous sur les sujets LGBT ?
Écoutez, moi je suis très à l'aise sur ce sujet. J'ai eu des attaques pendant la campagne des élections régionales ou sur les réseaux sociaux.
Parce que vous étiez opposée, vous, au mariage pour tous.
Voilà, mais je vais y revenir. Et donc, on m'attaque régulièrement en disant que je suis homophobe. Je viens de vous dire, j'ai deux garçons. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et vous voyez, ça, c'est des sujets que j'évoque aussi avec eux. Et c'est vrai que...
Donc vous soutenez les causes LGBT pour répondre à Antoine ?
Bien évidemment, et qu'aujourd'hui, il faut avoir cette ouverture. Et j'ai fait, en effet, la manif pour tous à l'époque, et ça sera à refaire aujourd'hui, je pense que je le ferai pas. Je pense que à l'époque, la droite, on a raté aussi ce moment d'union entre deux hommes ou entre deux femmes. Et oui, je le regrette, mais en tout cas, j'ai des amis autour de moi qui sont homosexuels et il n'y a aucun sujet. Mais on doit les accompagner. Et encore une fois, c'est le côté d'être tous unis et d'arrêter ces divisions des uns et des autres.
Merci Christelle Morançais, présidente de la région Pays de la Loire et vice-présidente du parti d'Édouard Philippe Horizon, d'être venue dans cette émission. Vous pouvez la réécouter comme tous les autres épisodes sur franceculture.fr et l'application Radio France à la page Sens Politique. Je rappelle pour toutes celles et ceux qui s'interrogent sur le choix de nos invités que nous respectons chaque semaine les règles de l'ARCOM qui imposent le pluralisme en fonction des forces politiques représentées au gouvernement et au Parlement, y compris hors période électorale. Merci à Léa Varin qui m'a aidé comme chaque semaine à préparer minutieusement cette émission, à la réalisation Luc-Jean Reynaud, à la technique aujourd'hui Olivier Arnay et à la vidéo Jordan Fuentes. Merci à vous toutes et tous qui nous envoyez vos questions chaque semaine et à samedi prochain